Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Notre coterie de marginaux en bien mauvaise posture. Armance est en train de s'enfuir par un passage secret, aux côtés du descendant qu'ils étaient venus avertir. Pendant qu'Ulysse, toutes griffes dehors, couvrent leur repli, seul obstacle entre les fuyards et la porte qu'ils viennent de fermer sur l'assaillant. Marcy et Pete, quant à eux, sont restés en arrière. Tapis chacun dans un coin du refuge de l'artiste, ils observent silencieusement le déroulement des événements sous le couvert de leur pouvoir d'occultation. Au travers des yeux de Pete, un Nosferatu, tout vêtu de noir, a dévalé les escaliers après avoir défoncé la porte à l'étage et s'être dirigé vers celle empruntée par le maître des lieux, la Tréméraie et le Gangrel. Cependant, le don de sentir l'invisible de Marcy lui offre un spectacle bien différent. Quatre autres descendants hideux sont en train d'investir les lieux à la suite du premier. Ils sont armés et ils ont l'air déterminés. Comme il s'agit de notre première scène de combat, à proprement parler, voilà comment nous allons procéder. Donc tout le monde va exprimer ses intentions, ce qui nous permettra de définir à la fois les groupements de dés à jeter, mais aussi l'ordre de résolution des actions. En règle générale, on joue d'abord les conflits au corps à corps déjà entamés, puis le combat à distance et finalement le combat rapproché commençant ce tour. En cas de doute sur qui agit le premier, on va comparer la somme de sang-froid plus vigilance. Pour rappel, Marcy et Pete sont à 3 en soif, ce qui pourrait vite devenir critique. Armance et Ulysse, eux, par contre, maîtrisent parfaitement leur bête puisqu'ils sont à 1. Du coup, je vous écoute. Que comptez-vous faire ?
Premier truc que je voulais vérifier, c'était la lumière dans ce fameux couloir où on était.
On avait défini qu'il faisait assez sombre dedans. On a, par contre, la lumière qui filtre un peu de la porte que vous venez de fermer. Et également, de l'autre côté, il y a de la lumière qui vient du sous-sol où Marcy avait découvert le passage secret. Donc, il fait sombre, mais il y a quand même des sources de lumière qui font qu'on voit où on est, on voit ce qu'on fait.
Ok. Donc, après avoir vérifié qu'a priori, il n'y avait pas moyen de couper la lumière, je pense que pour l'instant, je vais me contenter d'essayer de tenir la porte, enfin de retenir la porte. J'essaye de tenir ça une trentaine de secondes encore, en attendant de voir si j'ai des nouvelles, notamment des deux autres de l'autre côté, ou j'en sais rien.
Très bien. Alexander, que compte faire Armance ?
Armance, elle est paniquée, elle cherche juste à s'enfuir en poussant s'il va pas si vite à son goût. Et aussitôt qu'on est sorti, elle va se précipiter vers l'extérieur et l'entraîner vers une fuite plus ample.
Ok, donc son objectif, déjà, c'est de sortir du couloir et chercher la sortie la plus proche en quand même essayant d'emmener Saint avec elle.
C'est ça.
Très bien. Marcy et Pete, ils sont, eux, dans le refuge, sous occultation, avec, face à eux, un premier Nosferatu qui semble déterminé à faire sauter la porte comme il a fait sauter la première. Et Marcy peut voir que les autres sont en train d'investir les lieux. Ils descendent l'escalier 4 à 4. Ils sont probablement prêts à pousser la chasse.
Moi, je vais prendre... le petit revolver que j'ai dans le holster attaché à ma cheville droite. Je vais le pointer dans la direction du seul Nosferatu que je vois et le seul dont j'ai conscience. Mais pour l'instant, je vais attendre. Je vais attendre et seulement au dernier moment, si vraiment je me rends compte que c'est un vrai danger pour mes compagnons, je presserai la détente, mais pas tout de suite.
Très bien, donc toi tu cibles et tu attends un stimuli qui pourrait te pousser à passer à l'action.
Exactement.
Jean-Victor, que fait Marcy, elle ?
Bah, Marcy, vous voyez la scène de Jurassic Park quand il y a des enfants dans la cuisine ? Donc c'est un peu l'ambiance. C'est un peu l'ambiance, il y a un peu de panique, et puis Marcy va voir que Pete va lever son arme et viser Nosferatu. Évidemment, elle n'a aucun moyen de lui faire savoir discrètement En fait, on est 7 dans la pièce, qu'elle va bientôt se remplir. Du coup, Marcy va faire un peu comme Pete, c'est-à-dire qu'elle va sortir son surin et le prendre bien en main, avec dans l'idée, une fois qu'ils sont tous arrivés en bas, qu'ils sont agglutinés à la porte, d'en poignarder un dans la nuque ou dans le cou, et ensuite de remonter les marches le plus vite possible.
Très bien. Alors, dans l'ordre de réalisation, Armance et Saint courent à toute vitesse pour quitter le couloir dans lequel ils se trouvaient, le couloir dissimulé, et ils arrivent très vite dans ce sous-sol où Marcy avait trouvé le passage secret.
Ah oui, c'est vrai.
Armance agrippe l'artiste, elle lui prend la main, et lui, il dit immédiatement « Attendez, j'ai quelque chose à prendre ». Il avait déjà toute une liasse de papier sous le bras, et tu le vois qui se dirige assez vite vers ce qui semble être, semble-t-il, une boîte à outils qui est posée sur une étagère dans un coin à côté d'une machine à laver qui est probablement commune au bâtiment. Et il va ouvrir la boîte à outils pour récupérer un espèce de sachet avec un portefeuille et deux, trois trucs en plus.
Ok, bah elle regarde. C'est vraiment important. Nous sommes, comme vous le savez, bien pourchassés par des nocératus, des congénères de la pire espèce, alors il faudrait peut-être mieux se dépêcher.
Alors, Ulysse va me faire un jet de force plus athlétisme. Ça te fait 5D.
5D, pouf, c'est trop.
3 succès. Marcy et Pete peuvent voir le nocératu qui se trouve au niveau de la porte prendre un petit peu d'élan et se jeter épaule en avant contre la porte qui le sépare des fuyards, et il vient s'encastrer dedans, alors que Ulysse retient de toutes ses forces celle-ci pour qu'elle ne s'effondre pas sur lui. Il a bloqué la tentative du Nosferatu et en plus de ça, celui-ci semble s'être blessé dans la manœuvre, c'est-à-dire qu'il ressort sa tête et son épaule de la porte en bois avec le corps percé de quelques grosses échardes. Il a l'air pas très content. Est-ce que Ulysse réagit d'une manière ou d'une autre ? Il vient d'encaisser le choc sans trop de problèmes. Il a vu le corps traverser en partie le bois de la porte. Mais la porte a tenu.
Bah du coup, vu qu'ils ont décidé de l'enfoncer, ces gros imbéciles, au lieu qu'ils suffisaient de tirer dessus, je vais plutôt reculer de 3-4 mètres, de manière à ce que s'ils l'enfoncent, que la porte, j'imagine, s'abatte, et que le mec qui aura enfoncé la porte soit prêt à recevoir un coup dans la tronche. Donc je me mets un peu en retrait pour essayer de faire ça.
Ah bien, de votre côté, Marcy, Pete, est-ce qu'il y a une réaction ou vous êtes encore en train d'attendre?
Pour Marcy, ses meilleures chances, c'est s'ils sont tous en bas, qu'il y a éventuellement une possibilité de s'enfuir par l'autre issue. Donc elle sue métaphoriquement à grosse goutte, mais elle essaie d'attendre.
Ah bien. Et Pete?
De mon point de vue, la porte a l'air de tenir le coup.
Alors la porte a l'air quand même très endommagée par l'impact, mais Ulysse semble avoir gagné quelques secondes pour les autres fuyards.
Alors je vais m'approcher très lentement de celui qui essaie de défoncer la porte pour réduire la distance entre lui et moi, histoire que si jamais je dois presser la détente, je lui laisse peu de marge de manœuvre pour éviter mon tir.
Très bien. Armand s'entend un gros crack, le bruit de la porte qui subit l'impact. Elle a pas trop de visibilité sur le couloir maintenant qu'elle s'est engouffrée dans le sous-sol. Du coup, elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Par contre, Saint semble un peu paniqué et il lui dit « Dépêchez-vous, on se retrouve près de la Brius, dehors, un peu plus loin. » Et elle a peine le temps de bafouiller parce que elle est surprise qu'elle le voit fuser vraiment à toute vitesse vers l'escalier qui remonte. Il a utilisé visiblement un pouvoir de célérité à un niveau assez important et c'est vraiment comme si un athlète de très haut niveau venait de piquer un sprint en plein milieu de ce sous-sol.
Déjà, elle va mettre un peu de temps pour comprendre l'abribus puisque elle vient d'une autre époque et même si elle est acclimatée, elle a un peu de temps et oui. Eh bien, elle va se retourner et commencer à se carapater en direction du point de rendez-vous, donc... Toujours son cœur mort, froid, mais tout de même paniqué.
Très bien. Donc Armance se dépêche du mieux qu'elle peut, sachant qu'elle n'est pas vraiment habillée pour l'aventure, on va dire.
Oui, bon, ouais.
J'imagine qu'elle porte une robe ou quelque chose comme ça.
Ah oui, bien sûr, ouais, et toujours dans ses habits...
Un petit peu excessif.
Ouais, voilà. Du coup, elle attrape les pans de sa robe, d'ailleurs, justement, pour se donner un peu plus d'aisance lors de la course.
Le Nosferatu, qui venait de s'empaler sur la porte retenue par Ulysse, saisit celle-ci à pleine main et finit par l'arracher pour la jeter en arrière. Il a l'air furieux de rencontrer de la résistance. Et il se retrouve maintenant nez à nez avec Ulysse, qui se tient en position défensive.
Et qui doit faire quelque chose, du coup.
À moins qu'il compte juste encaisser le choc.
Ben, un peu surpris que son plan n'ait pas du tout marché, puisque finalement, l'autre a décidé d'arracher la porte. Donc là, il est quand même dans l'encadrement de la porte. Personne d'autre semble pouvoir passer, on est d'accord?
Oui, tout à fait.
Je m'avance, j'essaye de lui en coller une, mais en essayant de me rebarrer direct. Je veux surtout pas, on va dire, me retrouver au milieu de la pièce et pouvoir être débordé.
Donc tu vas me faire un jet de force plus bagarre, ça te fait 5 dés. Est-ce que tu souhaites faire un coup de sang ou quelque chose de similaire?
Vu que l'idée c'est de leur faire un peu peur pour qu'ils soient prudents dans la poursuite éventuellement, je vais effectivement tenter de frapper fort dès le début.
Alors c'est un double succès, on a 5 succès pour l'action d'attaque. Et un succès sur le jet de soif, donc la soif reste maîtrisée. Alors lui, il a un seul succès en réussite, qui fait donc une différence de 4. Les armes bestiales, ce sont des armes qui donnent un bonus de plus 2 aux dégâts de bagarre. Donc là, tu avais déjà une marge de réussite de 4, ça fait 6. Et un autre effet des armes bestiales, c'est que les dégâts superficiels ne sont pas divisés par 2, comme elles le seraient normalement par un descendant. En général, les descendants, même les armes à feu, leur font rarement des gros dégâts. Donc, c'est-à-dire que tu lui infliges 6 dégâts, qui est vraiment beaucoup, sachant qu'il s'était déjà blessé, en plus, en heurtant la porte.
Bien fait pour sa gueule.
Ulysse se jette en avant, comme un loup qu'on a coincé contre le mur, et toute griffe dehors, il lacère son adversaire, qui peine à suivre la violence et la force du gangrel. Les armes bestiales de Ulysse, ces griffes qu'il a fait sortir de ses doigts, lacèrent le visage du Nosferatu, qui prend une tournure encore plus grotesque et horrible qu'avant. Et un autre coup finit par infliger une blessure particulièrement sanguinolente, puisque c'est un des bras du Nosferatu qui tombe au sol, tranché net par les doigts acérés de Ulysse. Là, du coup, alors que Ulysse a pendant un instant l'impression de s'en être tiré comme un chef, notamment parce qu'il ne voit pas d'autre adversaire que celui qui vient de s'effondrer devant lui et qui tient son bras découpé avec certaines rancœurs. Par contre, Marcy peut observer que l'un des autres Nosferatu qui se trouvait là, qui venait de descendre des escaliers et qui était armé, lui, avec un sabre moderne, plonge en avant pour attaquer le gangrel.
Je crois que c'est le moment d'entraver cette tentative en le poignardant dans la tête.
Là, on va partir sur une attaque surprise. Tu vas me lancer dextérité, tu as 3, et furtivité, tu as 3. Ça fait donc 6 dés sur ton attaque.
Ok.
Et par contre, tu as 3 en soif.
Et je peux utiliser un point de volonté, là, du coup?
Alors, tu peux tout à fait utiliser un point de volonté. 4 succès, finalement. C'est très bien. Marcy se saisit de son surin et se rue vers le Nosferatu qui, encore sous la protection de son invisibilité, s'apprêtait à blesser gravement, peut-être, Ulysse. Et elle vient le planté au niveau du cou, ouvrant la chair molle sur le flanc en laissant une traînée sanglante. La blessure est assez rude, mais clairement pas suffisante pour incapaciter un descendant. Pete voit Marcy apparaître, et il voit également celui qui se fait attaquer être révélé face à lui.
En ce que je réfléchis quelques instants, presque plus surpris par la soudaine montée de violence d'Ulysse après qu'il ait démembré un assaillant et que je vois apparaître le deuxième armé d'un sabre, c'est ça que tu m'as dit ?
Oui, tout à fait. Là, tu t'étais rapproché, donc t'es à 3 mètres à peu près de la scène.
Ouais, je pense que là, c'est plus le temps d'attendre et de prendre des pincettes. Celui armé d'un sabre, je vais pointer mon arme dans sa direction et faire feu.
Très bien. Ce sera un jet de sang-froid plus arme à feu, ce qui fait 5 dés. 3 succès, qui n'est pas mal du tout. Comme il s'agit d'une arme à feu, ça fait quand même un petit peu plus mal, mais les descendants en divisent quand même les dégâts par deux. La balle l'atteint en plein torse, et clairement, ça a l'air quand même de l'avoir surpris de se faire attaquer comme ça par deux sources qu'il n'avait pas remarquées jusque-là. Et l'impact de la balle, en plus, l'a fait un peu tituber. Il a l'air d'être quand même en sale état. Il a l'air d'avoir encaissé le coup de manière assez rude. Par contre, c'est là que les choses se corsent.
Parce qu'avec un coup de feu pareil, j'ai également révélé ma position à l'ennemi.
Tout à fait. Marcy et Pete paraissent au grand jour, si je puis dire. Et les trois autres Nosferatu vont se ruer sur eux. Il y en a deux qui portent des pieux, et un autre qui porte un sabre, et les trois vont attaquer les plus proches d'eux, c'est-à-dire Marcy qui a foncé un petit peu dans le tas, et il y en a un qui va se ruer sur Pete.
Bon bah, c'était un plaisir de vous connaître.
Marcy va prendre 4 dommages superficiels, sachant que Marcy à 5 en santé, c'est-à-dire que si elle prend encore un dommage, elle sera impactée, c'est-à-dire qu'elle aura des dés en moins, parce qu'elle sera trop blessée. Les deux se jettent sur elle, l'un la frappe avec son sabre, et manque de peu de lui trancher sévèrement un membre, mais la coupure reste superficielle pour un descendant, alors que l'autre, y allant un petit peu brutalement avec son pieu, l'a enfoncé dans l'épaule de Marcy, laissant un impact sanguinolent au niveau de la clavicule.
Ouch.
Celui qui se rue sur Pete, par contre, fait preuve de beaucoup plus de violence, et notre cher Pete se trouve impacté par la charge du Nosferatu, qui vient le heurter contre le mur avec le pieu au niveau du ventre. Il laisse donc à Pete une plaie sanguinolente au niveau de l'abdomen qui lui cause 3 dégâts superficiels. Pour l'instant, c'est des blessures qui sont tout à fait gérables, mais effectivement, si ça venait à s'envenimer encore, vous auriez le risque de prendre ce qu'on appelle des dégâts aggravés, sachant que les dégâts aggravés prennent beaucoup de temps à être soignés.
Et nécessitent beaucoup plus de sang pour ça.
Armand se retrouve en haut dans la rue. Elle a réussi à quitter le bâtiment dans lequel elle s'était retrouvée. La rue est assez calme à cette heure-ci de la nuit, et pas de signe des autres.
Eh ben, alors qu'elle a couru peut-être justement à ce moment-là, un peu à corte, elle s'arrête. Finalement, peut-être dans ce moment de calme, sa rêverie l'étreint et elle va se mettre calmement, s'approcher de l'abri bus et elle va s'asseoir, attendre tout simplement.
En tout cas, Saint n'est pas là pour le moment. Elle sait pas trop ce qu'il est allé faire. Revenons du coup à notre petite troupe en train de se bagarrer. Ulysse a vu du coup Marcy et Pete apparaître. Celui qui s'apprêtait à l'attaquer est apparu devant ses yeux également, alors qu'il se prenait coup après coup un coup de surin puis un coup de feu. Et finalement, 3 autres silhouettes qui se sont jetées sur les autres et qui ont l'air de les malmener.
Je vais tenter un découpage plus...
Avec un coup de sang, c'est ça ?
Bah... Ouais, tiens, allez, pourquoi pas, hein. Tant que j'ai pas monté plus d'un niveau et vu la situation de mes camarades, je pense qu'il n'y a pas de raison de ralentir le rythme.
Ça te fait donc 7 dés, encore une fois.
Et bah, je l'explose.
7 succès critiques. Ta soif augmente, par contre. Mais effectivement, là, tu vois que tu as fait plusieurs 10. Et en fait, quand tu fais plusieurs 10, ça marche par paire. Chaque paire vaut 4 au lieu de valoir 2. Donc là, tu as fait 7 succès. Marcy, qui était sévèrement malmenée, voit Ulysse qui se rue en dehors de son terrier pour venir lancer ses mains griffues en direction de la tête d'un de ses assaillants. Et là où se trouvait une tête, bientôt il n'y en a plus, puisqu'elle a roulé au sol et que le cadavre s'écroule alors que son corps est en train de pourrir à une vitesse fulgurante.
La classe.
Pit et Marcy.
Bah, ça tombe assez bien avec, avec ce que voulait faire Marcy, qui était de se tourner vers là d'où vient Ulysse et de crier « On les tient, shérif !»
Ah, tu veux faire du bluff ?
Et éventuellement, alors je sais pas si ça fonctionne avec ou s'ils vont capter que c'est deux trucs différents, mais j'ai le pouvoir d'intimidation. Et l'idée était évidemment de leur foutre la trouille.
On peut effectivement considérer que là, ça serait un jet de manipulation plus intimidation plus ton bonus de présence.
Donc ça fait 6. Donc elle sourit d'une façon extrêmement carnassière. Ce qui est particulièrement malsain sur le corps d'une enfant de 14 ans. Et elle se passe la langue sur les babines. En appelant le shérif.
L'écro sorti, j'imagine.
L'écro sorti, et en appelant le shérif qui l'attend avec une douzaine de gros bras de la Camarilla dans le couloir et qui va les rejoindre, quoi.
4 succès. Les mots de Marcy ont l'air de résonner dans la tête du Nosferatu qui se trouve juste en face d'elle. Il se rend compte de ce qui est en train de se passer, du cadavre qui vient de s'écrouler à côté et de l'autre de ses compagnons qui se trouve au niveau de l'entrée du passage secret et qui est sévèrement blessé. Et tu le vois qui commence à te tourner le dos pour se ruer vers l'escalier. Vite ! Le Nosferatu qui vient de te plaquer contre le mur, défonçant au passage l'une des bibliothèques de Saint dont le contenu s'est effondré sur le sol, s'est tourné un instant par rapport à ce que vient de dire Marcy, mais il est toujours sur toi, physiquement imposant par rapport à toi.
Je vais jouer le jeu de Marcy et je vais lui dire « Allez mon grand, fais pas l'imbécile, tire-toi tant qu'il est encore temps. Tu sais que le shérif est pas loin. »
Il va montrer l'écrou et s'apprêtait à plonger sur Pete, sauf que au moment où il tente de s'en prendre à notre Nosferatu préféré, sa tête à lui aussi roule au sol, et c'est une figure familière de Pete qui se trouve maintenant à ses côtés, un cimeter à la main. C'est Khalid qui vient de se débarrasser de cette cible-là. Mais il a à peine le temps de décapiter celui-ci que déjà il est sur l'autre cible, celui qui commençait à se ruer vers la sortie. Sa cible a à peine le temps d'atteindre l'escalier pour être planté sur celui-ci avec son sabre. Dans la pièce, presque un silence de mort s'installe alors que il y a quelques secondes, il y avait des rugissements, des cris de colère, des menaces, une intimidation assez impressionnante de la part de Marcy qui résonnait. Et maintenant, il y a deux cadavres en train de pourrir à vue d'œil au sol. Il y a un Nosferatu qui s'est terré dans un coin, le bras découpé et qui semble terrifié par les silhouettes qu'il a face à lui. Et finalement, le dernier qui vient d'être planté à même l'escalier alors qu'il tentait de s'enfuir et qui se voit presque immédiatement décapité à son tour par l'ancien Nosferatu.
Ouh. Moi, je me relève péniblement, j'ai poussé de mon costume. On est d'accord qu'il y en a encore un qui, certes, n'a plus de bras, mais semble être toujours parmi nous.
Oui.
Je m'approche de lui en braquant mon arme dans sa direction au cas où il tente quoi que ce soit. Et puis je tourne la tête vers Khalid et je lui dis « Eh ben monsieur, on peut dire que vous tombez à point nommé. Que nous vaut l'honneur ?»
Khalid est en train d'essuyer le fil de sa lame avec sa langue, comme pour collecter la précieuse vitae qui vient d'être épandue grâce à lui. Et il se tourne vers Pete pour dire « Je n'ai eu qu'à les suivre, tu m'as indiqué leur repère. Ils étaient déjà en train de se préparer quand je suis arrivé. »
Et vous en avez appris un peu plus sur qui ils sont, ce qu'ils veulent. Nous, pour l'instant, je dois dire qu'on est encore un peu dans le brouillard.
Pas vraiment, mais nous allons nous en occuper. Il range son arme, il remet dans son fourreau son cimeter antique, son arme de collection presque, qui ferait la joie de n'importe quel antiquaire fortuné. Et il se penche au sol pour se saisir d'un des pieux qui a été laissé par un des assaillants. Il se rapproche de Pete et du Nosferatu qu'il est en train de tenir au bout de son arme. Et sans sembler avoir le moindre remords ou la moindre hésitation, il vient planter le pieu en question dans le cœur du Nosferatu.
Juste avant qu'il fasse ça, je m'adresse à l'autre qui est au sol et je lui dis « Bonne nuit, Cendrillon.
» Le prince des punchlines.
C'est un peu ça, ouais. Au moment même où le bois traverse le cœur du descendant, son corps tout entier prend les figures de la mort, comme s'il avait retrouvé son état de cadavre. Mais contrairement aux autres, il ne se décompose pas. C'est simplement comme si il venait de mourir. Il est en torpeur, il est parfaitement immobile, et il finit très rapidement sur l'épaule de Khalid. Khalid se tourne vers Pete.
Je crois que mon intuition se confirme cependant. J'ai une idée de qui pourrait être à l'œuvre ici, et je dois bien dire que cela me déçoit. Je vais le convoquer au refuge familial pour lui demander de rendre des comptes.
J'ai une idée de à qui il fait référence ?
Pas forcément, parce que même si tu connais un petit peu les Nosferatu locaux, t'en as aussi pas mal qui restent dans leur coin. Tu vois bien, par exemple, Elucide, tu ne l'avais jamais croisé, parce que par essence, les Nosferatu sont à la fois très liés entre eux, mais aussi ils ont souvent des vies très solitaires. Ça te parle pas pour le moment.
Okay. Je pense que du coup, je vais essayer de questionner Khalid pour en savoir un peu plus. Je dis, vous avez une petite idée, mais on risque gros là ? On parle de qui ?
C'est un descendant qui, de son vivant, était un chasseur.
Ah non, c'est les pires ceux-là.
Il me semblait fidèle pourtant. Je pense qu'il va falloir lui parler et lui tirer les vers du nez. Est-ce que vous souhaitez être présent lorsque je l'interrogerai ?
Je me tourne vers les autres, histoire de prendre un peu leur avis, mais je donne déjà le mien, je dis... Moi, ça me semble pas une mauvaise idée. Vous en pensez quoi ?
Ce sera avec plaisir.
Son regard légèrement vitreux se tourne vers Ulysse.
Évidemment.
Pas bien, c'est acté dans ce cas. Mais il faudra que Pete vous bande les yeux. Personne extérieur au clan n'a le droit de connaître l'itinéraire pour se rendre à ce refuge.
Ulysse hausse les épaules, ça le dérange pas plus que ça.
Oui, merci également. Elle répond pas, elle hoche simplement la tête.
Je vais m'occuper de celui-là. Pour ce qui est du grabuge ici... Et il va falloir s'en charger, mais voyez peut-être cela avec le maître des lieux.
Encore faudrait-il qu'on remette la main dessus.
Il serait peut-être temps de s'en occuper.
Me tournant en direction d'Ulysse, Armance et notre écrivain, t'as vu où ils sont partis ?
Ils doivent être plus loin dans le tunnel. Je sais pas vraiment ce qu'il y a de l'autre côté, donc...
Ah, c'est simplement un sous-sol d'un immeuble d'habitation. Il y a un petit passage dans le mur. C'est comme ça que je suis arrivé ici.
Bah alors, si t'es en état... Montre-nous le chemin, on va essayer de retrouver Armance et notre ami. Je
me tourne ensuite vers Khalid et je lui dis « Encore merci pour votre intervention. On se retrouve plus tard, là où vous savez alors. »
En vérité, je ne savais même pas que vous seriez là. Vous avez eu de la chance et...
Est-ce que ça serait pas plutôt à vous de nous remercier, monsieur Khalid ?
Je tourne son attention vers Marcy, l'air un petit peu curieux du raisonnement qui l'a mené à penser ça.
Elle fait un sourire et une petite révérence, c'était plus une boutade.
Il ne dit rien. Il ne commande pas plus que ça, cette boutade, du coup.
C'est une grande gueule, mais elle a pas mauvais fond.
Marcy a toujours un peu de mal à se retenir quand il y a une petite provocation gratuite à faire.
Surtout quand c'est l'autorité.
Dès qu'il y a une figure d'autorité.
Khalid remonte l'escalier, du coup, avec sa charge sur l'épaule. Le refuge, par contre, est dans un état assez lamentable, avec plusieurs restes de cadavres en décomposition. Ce qui vous renseigne quand même un petit peu sur ses descendants, puisque lorsqu'un descendant est tué définitivement, qu'il rencontre la mort finale, son corps retrouve son âge d'origine. Et très souvent, ça peut se matérialiser par un corps qui tombe en cendres si la personne était très ancienne, ou pour un corps plus récent, seulement à une putréfaction prononcée qui se manifeste. Et là, en l'occurrence... Ces gens-là devaient pas être des descendants depuis très très longtemps, vu que leur corps ne s'est pas entièrement décomposé.
Il charge à nous, du coup, de nous assurer qu'il n'y ait pas de rupture de la mascarade. C'est des humains qui descendent au sous-sol demain, quoi.
Visiblement. Après, c'était un refuge d'un vampire. Donc,
C'est quand même sécurisé, en quelque sorte. Normalement, il n'y a pas de regard indiscret qui traîne dans le refuge d'un vampire, en général.
Sachant que là, il reste quand même des cadavres un peu pourris, mais il y a des corps, quoi.
Peut-être qu'on les ramasse et, je sais pas, on foutrait le feu, j'en sais rien.
Ouais, moi, je vais chercher. Est-ce qu'on trouve quelque chose qui ressemblerait à un sac poubelle ou...
On va peut-être essayer de retrouver Armance avant de faire le nettoyage, non ?
Bah, ce qu'on peut faire, c'est que vous commencez le nettoyage, je vais chercher Armance. On la ramène ici avec l'écrivain parce que de toute évidence, il n'y a plus de danger.
Jusqu'à ce que d'autres viennent.
Et puis on lui laissera finir le nettoyage, quoi.
Ouais, je veux bien venir avec toi. Ulysse te laissera pas aller dehors, même si on croit qu'il n'y a plus de danger. Donc Pete, bon courage avec ton balai. À tout à l'heure.
Allez, à plus.
Je commence à m'occuper des cadavres. Je vous retrouve tout à l'heure.
J'espère qu'il va pas trop salir son beau costume.
Donc, pendant que Pete fait le service après-vente, les deux autres se dépêchent de se rendre dans la rue. Pendant ce temps-là, Armance a été rejoint par Saint, du coup, qui semble s'être défait de la liasse de papier qu'il avait quelque part. Peut-être un autre refuge qu'il a à proximité. En tout cas, une solution de repli, peut-être. Il s'est dépêché de venir vers elle. Il avait même visiblement pris une arme à feu qu'il a enfoncée dans son pantalon, dans la poche de son pantalon. Une fois qu'il a rejoint Armance à l'arrêt de bus, il l'a interrogé tout de suite. Qui sont ces gens? Pourquoi ils s'en prennent à moi? Je me tiens un petit peu à distance des affaires et je comprends assez mal qu'on vienne m'attaquer comme ça dans mon refuge.
Ah ah ah, ah c'est intéressant. Vous êtes tout comme l'autre cible et bien assez éloigné des autres. Des autres, de nous.
L'autre cible ?
Oui, vous êtes deux. Vous êtes éloignés, peut-être des cibles faciles.
Oui, madame, écoutez, on ne se connaît pas bien, mais c'était pas très sympathique de considérer que je suis une cible facile.
Vous ne pouvez pas dire dans ce sens-là, dans le sens où vous êtes isolés, pas tant d'attaches, pas de clan qui risque de tomber sur eux, non. Ils vous tuent, pour l'exemple, pour montrer qu'il y a quelque chose qui se trame dans la nuit. Ou alors pour autre chose. Est-ce que vous défendez quelque chose en particulier ?
Que je défends, tout un tas de choses. En fait, les causes ne manquent pas. Il y a toujours...
Vous priez ?
Non. Non, pas vraiment.
Ah. Eh bien, il y a des choses bien explorées. Attendons, mes camarades, j'espère qu'ils vont s'en sortir en vie. Mais je ne sais pas pourquoi les étoiles, bien que silencieuses, je les sens bien. La nuit est belle.
Vous êtes sûr qu'ils vont s'en sortir ? On pourrait peut-être... Retournez l'or. J'ai mis mon manuscrit en lieu sûr. À présent, je peux peut-être...
Vous avez fait ça simplement pour un manuscrit. Eh bien...
Comment ça, simplement Vous ne comprenez pas que c'est important pour moi. Quand on écrit et quand on est un artiste comme je le suis, on ne laisserait pas une œuvre disparaître ainsi. Enfin bref, dépêchons-nous. Si ça se trouve, ils ont besoin d'aide.
Vous voulez qu'on y retourne ?
Je suis plutôt surpris de voir que vous ne comptez pas le faire.
Et pourquoi faire ? Je ne fais pas le poids.
Là, Saint est un petit peu embarrassé. Il ne sait pas trop s'il doit aller aider les autres, vu que même leur allié n'a pas l'air très impliqué dans leur survie. Et finalement, après quelques minutes d'hésitation, c'est Marcy et Ulysse qui font leur apparition dans la rue. Ils n'ont pas besoin de chercher très loin pour voir les deux silhouettes installées à l'abribus complètement abandonnées, vu qu'à cette heure-ci, il n'y a plus de bus.
Ah, vous voyez là-bas. Alors,
elle se lève vers vous, du coup, elle court.
Ben se dirige vers eux.
Marcy leur fait simplement un petit geste de la main pour leur dire de venir.
Vous avez eu raison des vilains.
Petit sourire énigmatique, c'est le bon mot.
C'est bon, rentrez.
Est-ce qu'il y en a un encore là, tout chaud, pour que je puisse bien m'amuser ?
Alors, tout chaud, c'est pas vraiment le bon mot. Mais oui, Armance, on va peut-être pouvoir passer aux choses amusantes.
Je savais que c'était une belle nuit. L'air ne ment jamais. Je vais pouvoir m'amuser.
Nous t'avons gardé ta part du travail, Armance, ne t'inquiète pas.
Bon, écoutez, je me suis peut-être emporté quand vous avez fait éruption chez moi. Je me rends bien compte que la menace que vous aviez évoquée était réelle. Donc, veuillez accepter mes excuses.
Accepter.
Oui, c'est nous qui avons débarqué sans prévenir.
Et j'avoue, je comprends assez mal pourquoi j'ai été ainsi ciblé. Alors, votre ami dit que je suis une cible facile, donc...
Vous voyez comment il se vexe comme un enfant ?
Allez, rentrons. Nous discuterons de tout ça plus tard. Et je me réencouvre dans le chemin.
Saint emboîte le pas d'Ulysse. Et très vite, vous vous retrouvez à nouveau dans le sous-sol. Pendant ce temps-là, Pete est emparé d'un des sabres, c'est bien ça ?
Ouais, j'ai ramassé du coup le sabre d'un de nos assaillants. Et puis, je pense en sifflotant, bah, je commence à couper les morceaux de chair putréfiée, histoire que ce soit plus simple de les faire rentrer dans un sac. On pourra ensuite, au choix, soit bazarder dans un conteneur à poubelle, soit peut-être dans une rue isolée, et puis mettre le feu, quoi. Après, y mettre le feu, moi, je suis pas forcément super rassuré à cette idée-là.
Ouais, mettre le feu, c'est toujours une très bonne idée.
peut-être que je les jetterai juste dans la flotte, ou je sais pas si le lac est loin de notre position, mais...
Quand tout ça arrive, Pete a fait du découpage.
Je pense que vous m'entendez siffler, d'ailleurs, depuis le passage. J'ai l'air de faire ça avec une certaine sérénité. Et je pense que c'est pas la première fois que je fais disparaître des corps.
Saint, quand il arrive, s'adresse à Pete. Comme je l'ai dit à vos amis, je tenais à m'excuser pour ma réaction à votre arrivée. Si vous n'étiez pas venu ce soir, je ne serais qu'un tas de cendres et de regrets.
Vous êtes tout pardonné. C'est vrai qu'on s'est pointé sans frapper. Mais bon, en même temps, vous avez vu les morceaux qui sont venus après nous. Malheureusement, on pouvait pas vraiment faire dans la dentelle.
Vous devez le savoir, mais mon nom est Hank, mais tout le monde m'appelle Saint. Par contre, si vous pouviez m'éclairer un petit peu plus sur les contours de cette sombre affaire qui a failli me coûter une vie à laquelle je peux vous assurer que je suis fermement attaché, cela me conviendrait bien.
Et où est-il ? Pour jouer ?
Tu as tout ce qu'il te faut pour jouer là, maintenant que nous avons fait le travail.
Je ne veux pas d'ingrédients. Je veux un esprit malléable à faire chanter.
Mais justement, on a une proposition à te faire. Un ami est passé tout installé dans la demeure familiale de Pete et il nous a invité à le rejoindre dès qu'on serait prêt.
Ah.
Donc ça sera demain.
D'accord. Encore une nuit. Enchantresse. Ouh, je vais pouvoir esquisser dans ma tête bien des scénarios sordides.
Mais en attendant, Armand, s'il y a du ménage à faire.
Oh, mais Pete vient de dire qu'il est expert dans ce genre de nettoyage.
Ouais, je l'ai fait le plus gros, je me suis occupé des cadavres, mais faudra peut-être faire quelque chose pour la porte là-haut. Sinon, vos clients, ils vont se poser des questions.
Je vais m'occuper du reste, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je pense que ce refuge est compromis pour le moment. Mais vous inquiétez pas, j'ai mes ressources et quelques amis qui pourront probablement m'aider en attendant.
Écoutez, on ne sait pas encore précisément à quoi on a affaire, alors on aura peut-être besoin de vous recontacter.
Qui êtes-vous d'ailleurs ?
Moi, c'est Peter Hill. Vous pouvez m'appeler Pete. Je lui tends la main, je pense, en signe d'amitié, histoire de lui montrer que voilà, on est quand même relativement digne de confiance. On vient de lui sauver la vie quand même. Donc...
Là, de toute façon, il est content, donc il la sert bien volontiers.
Quel nom voulez-vous ? L'ancien, le véritable ? Quoique lacunaire, je garde mes deuxièmes prénoms pour moi. Sinon, eh bien, sait-on si vous êtes mal intentionné et quelque. Merci Dieu. Armance de Sadi. Elle est morte il y a longtemps. On m'appelle ici Adélaïde.
Ne vous inquiétez pas, elle a l'air un peu bizarre, mais elle a pas mauvais fond.
Oh, que vous êtes naïf. Non, je plaisante, je n'ai pas vraiment mauvais fond.
Je te fais un petit clin d'œil, Armance.
Vous pouvez d'ailleurs trouver toute l'hospitalité nécessaire chez moi. C'est un grand manoir, sombre et seul. Et j'ai une bonne, très gentille, sémillante.
C'est très gentil de votre part, madame, mais j'ai mes amis du mouvement ne verront aucun problème à m'accueillir et à me défendre.
De quel mouvement on parle, monsieur Saint ?
Du mouvement Anarch. Je fais partie des membres locaux.
Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne va pas justement à la recherche pour traquer les Anarchs qui survivent misérablement dans cette ville ?
Ah, jusqu'aux dernières nouvelles, Lodin a décidé de se plier... au traité de Thorn et en tant qu'anarque ouvertement déclaré, je suis censé être protégé par sa loi.
Ah, et ça pourrait être un motif intéressant de cette attaque alors. Raviver les braises du conflit entre la Camarilla et les Anars.
C'était pas le cas de notre professeur des écoles aussi ?
Je doute qu'elle soit anarque.
De qui parlez-vous ?
De Naomi Stewart. que vous la connaissez?
Oui, je la connais. Elle est en ville depuis un paquet de temps quand même.
Mais vous n'avez pas de relation particulière avec elle?
Non, ce n'est pas vraiment une anarque, non.
C'est ce que je me disais.
On connaît peu de sang-bleus qui acceptent de s'éloigner de l'arbre, même s'ils sont tombés de la branche.
Mais elle avait l'air assez éloignée de l'arbre, comme vous dites. Mais bon, je veux bien vous croire là-dessus.
En tout cas, elle, elle ne semblait pas vous connaître, en tout cas. Si elle vous connaît, elle, elle l'a bien caché.
Ça dépend comment vous m'avez présenté, mais je doute qu'elle ne sache pas qui je suis. Après tout, ça fait quand même quelques années que je suis un membre de la communauté.
On vous avait décrit comme l'écrivain du Blue Moon. Est-ce que c'est une identité qui est publique ou c'est quelque chose de plus intime?
Non, je ne pense pas que quelqu'un en dehors du mouvement anarque saurait m'identifier de cette manière. Le Blue Moon, comme vous pouvez le voir, c'est mon refuge et seuls mes amis étaient invités ici.
Je ne sais pas si il y avait certainement pensé, je ne voudrais pas semer le doute dans les belles amitiés qui unissent le mouvement anarque, mais qui vous ont trouvé et qui vous désignaient de cette façon, peut-être quelqu'un de... un de vos amis qui n'est pas aussi amical qu'il n'en paraît.
Peut-être, c'est une idée qui ne me plaît pas vraiment, mais c'est une possibilité.
On peut imaginer que la mort d'une ventrue, certes éloignée de la cour, mais connue, influente, et la mort d'un anar célèbre à quelques nuits d'intervalle, aurait certainement créé un chaos.
J'ai entendu dire, d'ailleurs nous en parlions avec quelques amis qui étaient venus plus tôt dans la soirée, que... les ventroux avaient déjà leurs problèmes entre eux, en quelque sorte. Et avaient des soucis assez importants dans leur faction.
Bah, vous vous doutez que ces troubles s'aggravent? Quelqu'un ne tardera pas à vous pointer du doigt? À peu près toujours comme ça qu'ils font.
Si vous avez un endroit où je peux vous joindre...
Mon manoir. Vous laissez un message à la bonne. Elle sait utiliser le téléphone. Vous n'avez qu'à sonner, dring dring, elle décroche. Vous lui laissez un message. Elle s'appelle Mathilde.
Armance doit avoir des cartes de visite.
Oui, oui. Et je fais d'ailleurs, elles vont sortir une du coup, des séances de spiritisme. Voici, si un jour vous êtes intrigué et vous avez quelques interrogations avec les esprits et les morts, les autres, ceux qui sont vraiment partis, pas comme nous, les capricieux ou les damnés.
Sain prend la carte entre ses doigts. Très bien, merci, j'y songerai. En tout cas, merci beaucoup. Très honnêtement, on peut le dire, je vous dois la vie. Et je saurais m'en rappeler.
Écoutez, il s'avère que peut-être nous aussi, à un moment, on va nous pointer du doigt quand les troubles vont s'aggraver. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura tout intérêt les uns et les autres à serrer les coudes.
Vous avez raison. Surtout si cette affaire n'est pas terminée avec ces cadavres-là.
J'ai une question extrêmement importante.
Allez-y.
De quoi parle votre futur livre, le manuscrit?
Eh bien, c'est un livre que j'écris depuis, je dirais, 2 ans déjà, où j'évoque un voyage que j'ai fait dans ma jeunesse dans l'ouest des États-Unis, à San Francisco plus précisément. Et j'y parle un petit peu des communautés que j'ai pu rencontrer là-bas et des vies communautaires qui étaient alors assez courantes.
Des souvenirs de vous? Mortel ou de vous immortel?
Mortel, mortel.
Oh, intéressant.
Vous vous doutez bien que les déplacements sont un peu plus compliqués de nos jours.
Oui, et vous avez un titre?
Pas encore. C'est quelque chose que je réserve toujours pour la fin. Une fois que mon livre est terminé, je peux trouver la formulation qui le caractérise le mieux.
Ah, eh bien, bon courage pour la suite.
Oui. En espérant que je n'ai pas à subir d'autres attaques de ce genre.
Ils doivent avoir été refroidis pour un petit moment.
Oui. Ils ne doivent pas être bien nombreux. Les fanatiques sont sûrement et bien affaiblis par tous ces morts. Et l'autre ne tardera pas à parler. Ça, avec les étoiles, nous allons nous en assurer. Sur ce, le soleil pulse. Et sa pulpe va bientôt sortir, darder ses rayons dangereux. Je suis fatigué.
Et moi, j'ai un petit creux.
Insatiable, gamine. On peut commander une pizza,